France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. L'attaque israélienne la nuit dernière contre l'Iran va-t-elle faire basculer le Proche-Orient dans une nouvelle ère stratégique ? Une centaine de cibles dont des sites nucléaires ont été visés et deux des plus hauts responsables militaires tués. L'essentiel de notre édition sera bien entendu consacré à cette offensive majeure. Téhéran affirme que ces frappes ne resteront pas impunies. Se dirige-t-on vers une guerre ouverte entre les deux ennemis historiques ? Cette offensive vient qui plus est télescoper l'agenda diplomatique. Elle compromet forcément les discussions prévues ce dimanche avec Washington sur le nucléaire iranien. Nous serons à Jérusalem. On détaillera par ailleurs l'ampleur des dégâts de la nuit dernière en Iran. Et puis avec notre invité aujourd'hui, Jean-Loup Saman, expert associé Moyen-Orient à l'Institut Montaigne. On se demandera jusqu'à quel point cette escalade majeure risque ou non d'embraser le Moyen-Orient. Israël parle d'une opération militaire majeure et qui ressemble fort à une véritable déclaration de guerre ou à tout le moins à une intensification sans précédent d'un conflit officieux entre les deux ennemis qui perdure depuis de nombreuses années mais qui jusqu'ici s'exprimait le plus souvent par procuration. Cette fois-ci, l'État hébreu a ouvertement ciblé la République islamique en frappant le cœur de son complexe à la fois nucléaire et militaire. Le site d'enrichissement d'uranium de Natanz notamment a été visé plusieurs fois. De fortes explosions ont également retenti dans la capitale, faisant des dizaines de blessés. Et puis, au moins deux dirigeants des gardiens de la Révolution, l'armée du régime de Téhéran, ainsi que deux scientifiques du programme nucléaire et le chef d'état-major ont été tués. Alors, cette attaque est-elle de nature à dissuader l'Iran de poursuivre ses efforts pour obtenir la bombe nucléaire ou tout au contraire à l'encourager? La question la plus difficile, celle à laquelle personne ne sait véritablement répondre aujourd'hui, est de savoir ce qui va advenir. À présent, les forces armées iraniennes ont prévenu qu'elles n'auront pas de limites dans leurs réponses et dès ce matin une centaine de drones iraniens ont été envoyés sur Israël, c'est encore le cas d'ailleurs en ce moment même. Dans le même temps, l'État hébreu poursuit lui ses attaques. Michel Paul, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de RFI pour France Culture à Jérusalem, le gouvernement de Benjamin Netanyahu avait déjà ouvert de multiples fronts ces derniers mois. La bande de Gaza, la Cisjordanie occupée, le Liban, le Yémen et désormais l'Iran. Le bellicisme du Premier ministre Michel semble ne plus avoir aucune limite.
Oui, elle a été baptisée du nom de Rising Lion, le lion qui se lève, un nom de code emprunté à la Bible, mais c'est plus qu'une simple opération, c'est une véritable guerre. Cela a commencé à 3h du matin par une série de frappes. Les chasseurs-bombardiers israéliens ont attaqué le site d'enrichissement d'uranium de Natanz, une attaque massive qui a très sérieusement endommagé le site. Le Mossad et l'aviation israélienne ont ciblé des responsables militaires iraniens, également des ingénieurs liés au programme nucléaire, notamment le général Hossein Salami, le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, dont la mort a été confirmée à Téhéran. Il y a déjà un remplaçant, d'ailleurs, le général Mohamed Papcour. Trois objectifs ont été définis par Israël, le programme nucléaire iranien, donc la destruction des missiles balistiques iraniens. Il y en a des milliers. L'Iran en possède donc des milliers. Et également le réseau d'alliés, les proxys, mis en place par l'Iran dans la région. Et encore un point important, Israël affirme mener cette guerre seul, et cela contre l'avis d'un grand nombre d'experts militaires israéliens qui se sont exprimés ces derniers jours.
Sait-on d'ores et déjà, Michel, comment réagit ce matin la population israélienne face à ce nouveau danger ?
Mais écoutez, les Israéliens ont été réveillés aux aurores ce matin par une alerte préventive, leur demandant de rester à proximité d'espaces sécurisés. Finalement, cette directive a été allégée dans la matinée. Après l'interception de drones tirés en représailles par l'Iran, selon l'armée israélienne, l'état d'urgence, lui, est toujours en vigueur. Pas de rassemblement, les écoles sont fermées, les lieux de travail non prioritaires également. L'espace aérien israélien est lui aussi fermé, le tout jusqu'à nouvel ordre. Et en ce moment, les supermarchés sont pris d'assaut. Les Israéliens font des provisions pour les prochains jours.
Merci Michel Paul. En direct de Jérusalem, alors on a déjà commencé à évoquer avec vous les cibles visées cette nuit par l'État hébreu. Forcément, de l'importance des dégâts causés dépendra l'ampleur de la riposte de la République islamique aux premières heures de cette guerre désormais ouverte entre les deux ennemis. Les coups portés au régime iranien sont a priori sévères, mais sont-ils pour autant décisifs, en particulier sur les capacités de son programme nucléaire? Élément de réponse avec Christian Chéneau.
L'usine d'enrichissement de Natanz, visée par Israël, est un site clé du programme nucléaire.
nucléaire iranien situé dans le centre du pays. Il compte un bâtiment de surface, mais surtout des installations souterraines pour produire de l'uranium enrichi. Il a été visé en 2021 par un sabotage attribué au service de renseignement israélien. L'autre site majeur, c'est Fordo, construit dans une zone montagneuse entre Téhéran et Qom. Il est enterré à plus de 80 mètres sous terre, sous une chape de granit. Avec ses 3000 centrifugeuses, il produit des matières nucléaires hautement enrichies. L'Iran possède aussi des usines de recherche et de conversion d'uranium, comme celle d'Ispahan qui produit du yellow cake, substance transformée en gaz, qui sert à faire tourner les centrifugeuses, ou celle d'Arak, réacteur à eau lourde pour la production de plutonium. Cette dernière installation a été gelée dans le cadre de l'accord de Vienne de 2015, le JCPOA. Le cœur a été retiré du réacteur et du béton y a été coulé. L'Iran dispose d'un centre de recherche nucléaire à Téhéran, fourni par les Américains à la fin des années 60 sous le règne du Shah. Enfin, les Russes ont construit la centrale de Bouchehr sur le golfe Persique pour produire de l'électricité.
Alors, outre les cibles nucléaires donc visées cette nuit, l'armée israélienne s'en est prise aussi directement aux personnalités militaires du régime. Le chef d'état-major des forces armées a été tué. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, lui a d'ailleurs aussitôt trouvé un successeur ce matin, de même qu'au chef des gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime, Hossein Salami, tué lui aussi la nuit dernière. Son portrait est signé Valérie Crova.
Le général Salami, c'était le visage de l'Iran révolutionnaire, celui qui apparaissait régulièrement à la télévision d'État. Nommé en 2019 par le guide suprême Ali Khamenei à la tête des gardiens de la révolution, Hossein Salami était connu pour ses discours enflammés contre Israël et les États-Unis. Il était aussi un acteur de la répression intérieure lors des soulèvements populaires de 2019 et 2022, où les Pasdaran, autre nom des gardiens, ont joué un rôle de premier plan dans l'écrasement des manifestations. Hossein Salami, qui avait 65 ans, avait combattu lors de la guerre Iran-Irak avant de rejoindre les gardiens de la révolution, ce corps d'élite composé d'environ 150 000 membres placés sous les ordres directs du guide suprême. Leur raison d'être est de protéger le régime et de sauvegarder les acquis idéologiques de la révolution. Outre leur pouvoir militaire, les gardiens de la révolution, classés parmi les organisations terroristes par les États-Unis, contrôlent également une grande partie de l'économie iranienne. Hossein Salami était d'ailleurs visé par des sanctions américaines.
Alors, on l'a dit, Israël justifie aujourd'hui cette attaque massive en assurant que l'Iran s'approchait du point de non-retour dans la fabrication d'une bombe atomique. Il y a quelques jours à peine, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, avait d'ailleurs elle-même adopté une résolution condamnant Téhéran pour non-respect de ses obligations en matière nucléaire. Bien entendu, ce rapport ne doit pas pour autant être considéré comme le facteur déclencheur de cette guerre, mais sans doute a-t-il servi de prétexte et même de caution presque inespérée pour l'État hébreu, qui depuis longtemps déjà fomentait des plans d'attaque contre son voisin. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
Que sait-on exactement aujourd'hui des capacités nucléaires de Téhéran ? En clair, Étienne, est-ce que l'Iran a les moyens de construire aujourd'hui une bombe atomique ?
Alors, pour répondre à cette question, il faut se pencher sur le taux d'enrichissement de l'uranium. La vigie dans le domaine, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique. Dans son dernier rapport, elle estime qu'il y a 400 kilos d'uranium enrichi à 60%. C'est le stock stratégique iranien. C'est très largement au-dessus de ce qui est nécessaire pour faire une activité civile de cet uranium, et c'est proche du niveau d'enrichissement nécessaire pour faire une bombe atomique, niveau qui est fixé à 90%. D'après l'Agence internationale de l'énergie atomique, le régime a donc de quoi fabriquer une bombe, même plusieurs. Ce stock permettrait de fabriquer 10 bombes, mais il reste encore du chemin à parcourir et l'Iran, à cette date, ne possède pas l'arme atomique. Les services américains cités par la presse des États-Unis considèrent qu'il faudrait quelques semaines au régime pour atteindre le seuil fatidique des 90% d'enrichissement et ensuite quelques mois pour fabriquer une bombe qui nécessite à la fois une miniaturisation et une installation sur une ogive pour le lancement. Le régime lui affirme que c'est contraire à ses valeurs, la bombe atomique, et que son programme nucléaire reste civil. Mais l'Agence internationale pour l'énergie atomique s'inquiète du taux d'enrichissement qui augmente de mois en mois. Elle soupçonne l'Iran d'utiliser 3 sites pour les activités nucléaires qui ne sont ni déclarés ni vérifiables.
Merci Étienne Monin. Alors voilà plusieurs jours en réalité que les craintes d'une frappe imminente de l'État hébreu se précisaient. Hier encore, Donald Trump avait pourtant expressément demandé à Benjamin Netanyahu de ne pas attaquer l'Iran pour laisser sa chance à la diplomatie, d'autant qu'un sixième cycle de négociations était prévu ce dimanche entre Washington et Téhéran. On ne sait toujours pas si le rendez-vous sera maintenu ou non, mais c'est quoi qu'il en soit un revers cuisant pour le locataire de la Maison-Blanche qui se revêt en faiseur de paix. Pour autant, on imagine que les Américains ne pourront pas rester longtemps sans réagir, notamment parce qu'ils possèdent des bases militaires permanentes, potentielles cibles donc dans la région du Moyen-Orient, et puis parce qu'Israël reste leur allié. Est-ce que Benjamin Netanyahu est en train d'entraîner Donald Trump dans une nouvelle guerre? On imagine l'embarras de l'administration américaine. Ce matin, Donald Trump a exhorté l'Iran à conclure un accord sur son programme nucléaire, sous peine de subir de nouvelles attaques encore plus dures. Par ailleurs, et toujours côté réaction à l'international, l'Irak fustige l'agression militaire menée par Israël. De son côté, la Russie dénonce des frappes, je cite, inacceptables. La chef de la diplomatie de l'Union européenne appelle pour sa part toutes les parties à la retenue. Quant au président Emmanuel Macron, il a tenu ce matin un conseil de défense et de sécurité nationale depuis l'Elysée. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, appelle à désamorcer la situation. Quoi qu'il en soit, cette attaque plonge nécessairement la région donc dans une nouvelle zone de turbulence dangereuse. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction à présent, Jean-Loup Saman, chercheur à l'Institut du Moyen-Orient de l'Université nationale de Singapour, expert associé Moyen-Orient à l'Institut Montaigne. Bonjour monsieur.
Bonjour.
On se souvient qu'Israël et l'Iran s'étaient déjà directement affrontés. C'était à l'automne dernier, un précédent déjà inquiétant. Cette fois-ci, la confrontation est d'une toute autre nature.
Oui, on voit clairement qu'il y a une différence à la fois dans les objectifs et dans l'étendue de l'opération, parce que comme vous venez de le rappeler dans les différentes analyses, c'est une opération qui vise à la fois le programme nucléaire, le programme balistique, mais aussi une dimension qu'on pourrait dire de déstabilisation du régime iranien en visant des leaders militaires. Donc là, ce qui est frappant, c'est une opération à des objectifs bien plus importants que en avril ou octobre dernier, et qui du coup devrait logiquement amener une escalade encore plus forte que ce qu'on a vu par le passé avec l'Iran.
À ce titre, justement, quel est aujourd'hui le rapport de force militaire entre Israël et l'Iran ?
Alors le rapport de force, il s'est dégradé de toute façon. Il était déjà supérieur du côté israélien, donc mais il s'est déjà dégradé depuis deux ans. D'une part, les opérations précédentes avaient conduit les Israéliens à affaiblir grandement les capacités iraniennes, en particulier la défense aérienne en octobre dernier, qui avait été décimée par l'armée israélienne. D'autre part, et c'est l'élément le plus important peut-être, c'est le fait que les proxys, les alliés régionaux de l'Iran, que ce soit le Hezbollah au Liban ou le Hamas à Gaza, ont été fortement affaiblis après quasiment deux ans de conflit. Et donc là aussi, les capacités de nuisance ou de riposte de Téhéran, elles sont beaucoup moins fortes qu'elles n'ont pu l'être, on va dire, avant le 7 octobre.
De nombreux observateurs s'interrogent sur le rôle joué par Washington, principal allié d'Israël dans cette opération. Les États-Unis ont officiellement déclaré ne pas être impliqués dans cette action militaire. Selon Téhéran, celle-ci n'aurait pas pu être menée sans la coordination et la permission de Washington. Se pourrait-il que l'administration américaine ait proposé de partager des renseignements ou bien offert une quelconque capacité de ravitaillement aérien à Israël, en clair apporter leur aide tout en maintenant une forme de déni plausible?
C'est possible. Après, on en est réduit malheureusement à beaucoup de spéculations. Ce qu'il semble avéré pour l'instant par rapport aux déclarations, que ce soit la Maison-Blanche ou le Département d'État, c'est que c'est une décision qui a été prise unilatéralement. Ce sont les termes qui ont été employés par Washington, à savoir que Israël a souhaité conduire cette opération. Les Américains ont probablement laissé cette opération se faire, c'est-à-dire que ils ont été informés au préalable. On ne sait pas s'ils ont été informés quelques jours ou quelques heures avant, mais d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue de la coordination militaire, c'est évident qu'il y a dû y avoir un minimum d'informations. Après, ce qui est quand même assez fort à noter, c'est le fait que les Américains du moins diplomatiquement aujourd'hui, ont souhaité prendre leur distance en affirmant d'une part qu'ils n'ont pas eu de rôle dans cette opération, que leur priorité est de sécuriser, de protéger leurs troupes et leurs citoyens dans la région. Et comme vous l'avez rappelé, le fait que Donald Trump, même si c'est peut-être encore du déni, souhaite toujours un accord nucléaire avec l'Iran.
À ce titre, pourquoi Benjamin Netanyahu a-t-il choisi de lancer justement ces attaques deux jours avant de nouveau pourparlers avec Washington ?
Alors, il y a les objectifs qui se sont affichés. Ce qu'on sait du discours de Benjamin Netanyahu, c'est cet argument selon lequel l'Iran aurait été en capacité, en l'espace d'une dizaine de jours, de produire des premières armes nucléaires. Même si c'est quelque chose qui est assez divergent de toutes les analyses qu'on a pu entendre de l'AIEA ou des services de renseignements occidentaux. L'idée que c'est finalement, sur un plan militaire, peut-être le meilleur moment, d'un point de vue purement opérationnel, à savoir que l'Iran est affaibli, comme on l'a dit il y a quelques minutes, à la fois sur sa défense aérienne et sur ses alliés dans la région. Et donc, d'une certaine façon, pour les Israéliens, c'était peut-être le meilleur moment. Et par ailleurs, il est possible que, le gouvernement Netanyahou et le Premier ministre en particulier se refusent l'idée même de cet accord avec l'administration américaine. On ne savait peu de choses sur ce qui était capable d'être obtenu par cet accord, mais il y avait, disons, un scepticisme fondamental du côté israélien sur la capacité de Téhéran à jouer, disons, les bons élèves vis-à-vis d'un accord nucléaire. Donc là aussi, c'est peut-être une opposition assez frontale à l'approche de Trump sur la possibilité d'un accord.
C'est bien noté. Merci Jean-Loup Samahan, chercheur, donc expert associé Moyen-Orient à l'Institut Montaigne, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Aloïs Guérin pour la préparation.
Dans le reste de l'actualité, 265 morts et un seul passager survivant. C'est le dernier bilan du crash du vol 171 d'Air India hier.
Oui, les causes exactes de la catastrophe n'ont pas encore été identifiées. L'appareil à destination de Londres s'est écrasé sur un quartier résidentiel peu après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad dans le nord-ouest de l'Inde ce matin. Une des deux boîtes noires a été retrouvée et puis au-delà de la tragédie humaine, nécessairement la question se pose aussi de savoir si cet accident aura d'importantes conséquences ou non pour Boeing. D'ores et déjà, le patron de l'avionneur américain a annulé sa venue au salon international du Bourget prévu lundi. En France, le Conseil constitutionnel a validé hier soir la majeure partie des mesures de la loi contre le narcotrafic. Les juges ont notamment jugé conforme le régime carcéral d'isolement prévu pour les trafiquants les plus dangereux dans les prisons de haute sécurité. Le congrès du Parti Socialiste s'ouvre cet après-midi à Nancy et après la réélection sur le fil du premier secrétaire Olivier Faure. Une question se pose, où va le PS aujourd'hui ? A-t-il les moyens de peser à nouveau dans le paysage politique ? Les trois courants vont-ils réussir à s'entendre pour attirer de nouveaux militants ? Seule certitude, Laurence Mérida, à quelques heures donc de l'ouverture du congrès, le mot d'ordre c'est « unité ».
Au vu des résultats très serrés, Olivier Faure, qui a lui-même plaidé pour un rassemblement, doit se consacrer à bâtir une unité sincère. C'est l'avis du sénateur Michael Weber, soutien de Boris Vallaud, qui a perdu dès le premier tour avant de donner sa voix à Olivier Faure.
Ce que lui propose n'est absolument pas partagé largement au sein du parti aujourd'hui. Olivier Faure est usé, on voit que Nicolas Mayer aussi n'a pas réussi à convaincre à deux reprises. Donc si vous voulez, ce que nous avons créé avec Boris Vallaud n'a pas vocation à disparaître dimanche soir. Au contraire, ça a vocation à contribuer effectivement à un nouveau parti socialiste.
Oui, une nouvelle séquence s'ouvre au PS. Terminer les rapports de force pour le politologue Rémi Lefebvre.
Là, on va avoir plutôt un congrès qui va être une opération de communication où le parti socialiste va essayer de donner une image relativement rassemblé. Donc la question du message du Parti socialiste vers l'extérieur du parti va dominer, et aussi la question, est-ce que l'unité du parti est possible en dépit d'un score très serré ?
Elle est possible, à condition de rénover le parti. Nicolas Maillard-Rossignol demande, entre autres, une clarté absolue sur le fait qu'il n'y aura aucune alliance avec la France insoumise, ni pour les municipales, ni pour la présidentielle. Hélène Geoffroy fait partie de sa coalition.
Nous avons dit que le nouveau Front populaire est caduque, pas d'accord avec la France insoumise. Est-ce que que ça, c'est clairement dit. Dans le débat du Congrès, ce n'était plus aussi clair.
La maire de Vaux-en-Velin demande aussi la mise en place d'un plan massif d'adhésion.
Les militants vont continuer à s'en aller s'il n'y a pas un sursaut qui est porté là. Et le fait que personne n'ait la majorité, c'est peut-être une opportunité qu'il y ait un sursaut.
Reprendre la main sur les sujets tels que le financement des services publics, les retraites, les questions migratoires ou encore l'écologie sont autant de thèmes qui seront abordés lors du Congrès du PS.
Comme attendu et malgré la pression exercée par les partis de gauche, la taxe Zuckmann sur le patrimoine des ultra-riches a été rejetée sans appel hier par les sénateurs dominés par une alliance droite-centriste. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Une ambiance partout encore largement estivale, même si en fin de journée, le ciel se couvrira avec des pluies parfois intenses du Val-de-Loire à la Normandie en passant par le bassin parisien. Au total, 28 départements du nord-ouest et du sud-ouest sont placés en vigilance orange. Quant aux températures, elles seront comprises entre 18 et 35 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Alison Vicrobeck. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Ballu pour le prochain journal de la rédaction.
Merci Thomas Cluzel. Et à lundi.
À lundi.
Et c'est parti pour la deuxième partie des midis. Ne partez pas. À 13h, je discuterai avec Robin Campillo. Mais d'abord, Marie Sorbier, Le Point Culture. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Fausse déclaration, contre-vérité, réécriture, manipulation des faits. Dans l'actualité quotidienne, il est désormais difficile de ne pas douter de la parole publique. Alors, Ornicard, la revue du champ freudien, consacre son 60e numéro à ce que signifie mentir. Des psychanalystes et des écrivains, on y retrouve notamment des textes de Pierre Michon ou d'Éric Vuillard, explorent les différentes facettes du mensonge et nous proposent des outils pour comprendre mieux le monde contemporain. Alors, comme par exemple un essai d'Oscar Wilde intitulé « Le déclin du mensonge » et c'est le dossier du Point Culture du jour. Philippe Elbois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste et auteur et vous venez de publier un texte dans le dernier numéro de la revue Ornicard intitulé « Le déclin du mensonge ». Ce titre, c'est aussi celui d'un texte d'Oscar Wilde, publié en 1889. Alors, qu'est-ce que développe Wilde dans cet essai ?
L'intérêt de ce texte, c'est qu'il oppose deux mensonges, au fond. Il y a ce qu'il appelle le beau mensonge et, à contrario, on peut lui opposer, disons, le gros mensonge. Le beau mensonge, c'est celui, dit-il, que tout le monde commet. Que tout le monde commet en parlant. Et c'est en ce sens-là que ça fait écho à la psychanalyse. C'est que le problème en parlant, c'est qu'on ne peut arriver à dire les choses, on ne peut arriver à dire les choses qu'à côté. Dès qu'on parle, on ment. Lacan a d'ailleurs fait un petit